Radio Spirale.
C'est à l'initiative de la revue Liberté que trois romancières contemporaines sont venues déballer leur bibliothèque devant le public rassemblé pour l'occasion à la Maison des écrivains de l'UNEC en février 2014. Pour cette première rencontre, Julien Lefort-Favreau recevait Catherine Mavrikakis.
Bonjour Catherine Mavrikakis.
Bonjour.
Une petite présentation sommaire peut-être. Donc professeure à l'Université de Montréal, essayiste, romancière, hein, parmi tes titres les plus connus, Le ciel de Bicity, évidemment, L'éternité en accéléré aussi, Deuil cannibale mélancolique, et bientôt, d'ici environ un mois et demi, c'est au mois d'avril, si je ne me trompe pas, ton essai sur Diamanda Galas, Guerrière et Gorgone, qui était prévu depuis longtemps, en fait, donc c'est bien de voir qu'il va paraître. Et aussi, avec Nicolas Lévesque, le livre vient tout juste de paraître.
Ce que dit l'écorce.
Ce que dit l'écorce, merci. Il est tellement récent que je me souviens plus du titre. Donc, il paraît la semaine prochaine chez Nota Bene dans la collection Spirale. Donc, on va déjà enfreindre la première règle des entrevues. Hein. Quand Marie faisait la présentation, elle disait ce qui a amené les écrivains à écrire. Hein, donc, on ne va pas commencer par ça, en fait. On va peut-être commencer par un écrivain qui t'a amené à lire. Hein. Donc, avant de parler de tes influences comme écrivaine, on va peut-être parler de l'auteur qui t'a amené à la lecture. Donc, cet auteur, tu voulais en parler. Tu m'as dit, je ne veux pas parler de littérature contemporaine, j'ai envie de parler d'un vieil auteur. Donc, tu voulais parler de Marcel Proust. On va commencer par Proust. Hein, c'est un gros morceau. Je pense qu'on est capable de faire un bout avec Marcel Proust. Mais c'est drôle, je pensais que tu allais me dire Duras ou je pensais que tu allais me dire Céline. Tu aurais probablement pu le dire, mais tu voulais commencer plus tôt peut-être dans ton parcours. Donc, le moment où tu as commencé à lire Proust à l'adolescence, donc j'aimerais peut-être que tu me parles comment tu l'as découvert puis ce qui t'a appris en premier, disons.
D'accord. Oui. Ben, t'as raison, je vais juste reprendre ce que t'as dit. Quand on s'est rencontrés, j'avais pas tellement envie de raconter quels étaient les auteurs qui m'avaient influencé directement. C'est vrai qu'il y a plusieurs auteurs derrière chacun de mes livres. En fait, j'ai toujours un parrain ou une marraine derrière, imaginaire. Mais c'est peut-être pas si intéressant que ça, dans le fond, et pour moi. Et je me suis dit, j'ai envie de parler de Proust, parce que Proust, c'est ce que je lis tous les jours. Mais vraiment tous les jours. Et donc, j'avais... Oui, alors comment j'ai connu Proust? Je l'ai pas... En fait, je viens d'un milieu où on n'a jamais prononcé le mot Proust, et j'allais à l'école, j'allais dans un lycée français, mais le Proust était au programme de en première, c'est-à-dire au cégep. Et donc, quand j'ai commencé à lire Proust, j'étais en troisième, parce qu'on allait à l'envers, et j'avais jamais entendu le mot Proust, parce que j'allais l'entendre seulement en première. Donc, c'était comme ça, c'était très... bon. Et... J'arrive à la bibliothèque du collège où j'étais et je vois des titres assez beaux, dont « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Et je me dis « Ah, ben j'ai 15 ans, c'est peut-être bien ». Je ne savais pas ce que c'était, ça pouvait ressembler à un livre aussi de Délie, qui était un petit peu semi-porno à l'époque. Je ne sais pas si vous voyez, je ne savais pas trop ce que c'était « À l'ombre des jeunes filles en fleurs ». Je me disais « Qu'est-ce que c'est ?» Bon, je vais lire ça. Et j'ai commencé à lire, puis là j'ai compris que j'étais au milieu d'un parcours. Et j'ai commencé à faire tout le parcours proustien, mais un peu dans le désordre parce que je ne savais pas l'ordre des livres. Et bon, il n'y avait personne pour m'éclairer. Et je me rappelle d'avoir dit la première fois en classe à mon prof de français, je lis Proust. Et il ne comprenait absolument pas qui c'était, parce que, bon, ici, c'était le mot, on dit plutôt Proust que Proust, ça ne s'écrit pas pareil, mais bon, et il ne comprenait pas. Et là, j'ai compris qu'il y avait complètement un décalage entre ma culture, la culture que je pouvais avoir par l'écrit et la culture orale, etc., parce que je vivais dans un milieu où on était un peu coupé de... C'est par l'école que j'ai appris, mais dans mon milieu, on ne savait pas comment dire Proust, et je ne sais même pas si on le sait encore, mais je suis là pour apprendre les gens. Donc, c'était un peu ça. Donc, Proust, je l'ai découvert comme ça. Et qu'est-ce que... Ben, c'était... ça a été... j'ai eu l'impression que... Ben, en fait, ce qu'il y a de bien dans Proust, c'est que c'est long. c'est un texte long, donc j'en ai eu pour longtemps. Hein, j'en ai eu pour toutes les années difficiles de 15 à 18 ans. Et donc, ça m'a accompagnée déjà à ce moment-là.
Puis, tu dis que dans ton milieu d'origine, on ne savait pas comment prononcer Proust. Est-ce que ça t'a permis, hein, ça c'est un peu le truc classique, on lit souvent ça, comment les écrivains, durant l'adolescence, la littérature, les fait bouger de classe sociale, en fait. C'est-à-dire, pas nécessairement comme une ascension sociale, mais leur permet de se détacher de leur classe sociale puis d'imposer une distance ou enfin de voir différemment d'où ils viennent. Est-ce que Proust a eu cet effet-là? Est-ce que c'était à cause de l'écart temporel? Est-ce que c'est parce que c'était un autre pays? Est-ce que c'est parce que c'était une autre époque? Ou tout simplement parce que tu accédais à la littérature par Proust? Puis déjà, ça, c'était déjà une distance.
J'accédais à la littérature par Proust, mais la littérature pouvait venir que par la France. C'était très bizarre dans mon imaginaire. Après ça, ça a changé. J'ai découvert plein d'autres littératures, très vite d'ailleurs. Mais c'était comme... le côté vieille France de Proust, ça, c'était... pour moi, c'était ça, la littérature, au départ. Tu sais, je me disais... cette chose surannée qui ne me ressemble pas tout à fait, qui est un écart par rapport à ce qu'on vit. Et puis, ce que j'aimais dans Proust, c'est le snobisme. C'est-à-dire que je venais d'un milieu qui n'était pas du tout snob. Peut-être qu'il l'était. Dieu sait que mon frère est snob. Mais je pense que je suis pas dans... je ne venais pas de ça. Et puis, d'un seul coup, c'était le droit aussi de faire partie d'une communauté fermée qu'il y a chez Proust. Bon, la communauté des homosexuels, des juifs, les Verdurins qui sont des snobs ridicules. Mais d'un seul coup, je me disais, ah oui, on peut échapper au troupeau d'où on vient, à la meute de laquelle on fait partie, puis on peut aller vers autre chose. Bon, je sais que c'est affreux, là, je suis en train de dire combien j'ai trahi mes origines, mais je pense que passer à la littérature, ça a été une trahison des origines, parce que c'était pas qu'on était contre la littérature. Mes parents aimaient beaucoup la littérature, mais ils n'en lisaient pas vraiment. Tu vois,
ils aimaient comme concept, mais ils n'en lisaient
pas. Ben, ils n'étaient pas cultivés, ils étaient pour la littérature, mais ils ne savaient pas par où commencer. C'était pas, ils espéraient que leurs enfants deviennent plus lettrés qu'eux, mais eux, ils n'avaient pas ces moyens-là.
Puis, est-ce que ça te permettait aussi de te séparer de la culture scolaire? Parce que quand tu m'as parlé de Proust, tu t'en as parlé un peu, tu as dit que c'est la longueur, ça me donnait... Hein, ça me permettait de lire longtemps. Alors que ce qu'on t'enseignait au lycée français, c'était plutôt des anthologies, c'était des morceaux de littérature. Donc, est-ce que ça a pu changer, disons, dans ton rapport à la culture, au sens de ton rapport à la littérature, dans ta façon d'appréhender, disons, la littérature comme quelque chose qu'on impose comme un canon par petits bouts, ou entrer dans une œuvre? Hein,
puis, oui, ben, c'était ça. C'était que j'allais me perdre dans une œuvre. Après Proust, j'ai fait Balzac, j'ai fait Zola. Oui. Tu sais, je me suis dit, les Français d'abord. Et puis, bon, après ça, c'est vrai que j'aime bien les œuvres. J'ai encore ce goût-là pour des œuvres qui sont longues. Je peux aimer des œuvres très courtes aussi. Mais c'est vrai que quand je vois que c'est un peu long et que ça va me prendre beaucoup de temps, ça m'inspire un peu. Je me dis, j'ai beaucoup de mal avec la fin du livre. La fin du livre, quand on lit et puis ça va finir, c'est difficile pour moi ça, donc souvent je le relis plusieurs fois de suite pour pas que ça finisse, mais donc j'ai beaucoup aimé ça. Et puis c'est vrai qu'on était habitué à avec la formation qu'on recevait, c'était des petits morceaux de texte, même pas des poèmes entiers, des bouts de poèmes parfois, donc cette façon de un texte qui avait un peu plus de souffle ou une architecture, j'étais pas du tout habituée, enfin on m'avait pas encore montré ça.
Puis, c'est drôle, quand tu m'as parlé de Proust, tout de suite, tu m'as parlé de Deleuze. Évidemment, tu n'as pas lu Deleuze en lisant Proust à 15 ans. Tu l'as lu plus tard, ce qui t'a permis peut-être de comprendre différemment ce que tu avais compris d'abord chez Proust. Puis je ne l'avais pas lu, Enseigner les Proust, donc je l'ai lu cette semaine pour me préparer. J'ai trouvé ça très drôle, en fait. Pour te dire, j'ai trouvé ça très drôle. Mais ce que raconte Deleuze là-dedans, tu vas me corriger, parce que moi, je l'ai lu vite, là, donc tu le comprends mieux que moi. Mais ce que dit Deleuze, en gros, c'est que la recherche, c'est pas tant une quête de la compréhension du temps, c'est une quête de la compréhension des signes. Hein? Alors, c'est un récit d'apprentissage des signes amoureux, des signes mondains. Puis donc, est-ce que toi, Proust, ça a eu cet effet-là sur toi, c'est-à-dire un apprentissage du monde, mais un apprentissage du temps, mais aussi un apprentissage de comment, du fonctionnement du monde, du fonctionnement de la société. Mais
absolument. Pour moi, Proust, c'était comment lire. Tu sais, c'est un comment lire. C'est-à-dire que Proust est capable de voir les gestes d'un personnage et puis les analyser. Bon, on croit qu'on lit quelque chose, mais dans le fond, il faut lire l'autre version. Il ne faut pas seulement lire le côté de chez Swann, il faut lire le côté de Guermantes. Mais les deux se rejoignent. Mais il faut apprendre à lire il faut apprendre à lire les signes et au-delà du signe. Mais c'est le signe qui permet ça. Oui, pour moi, ça a été ça. Et je peux dire aussi que c'est un grand pouvoir pour moi de savoir lire. Ben, enfin, est-ce que je sais lire les signes, j'en sais rien. Mais enfin, mais d'avoir cru que je pouvais lire les signes, que je pouvais lire le monde, qu'il y avait du... je lisais le monde et les livres de la même façon. Puis je pense que c'est ça que Proust nous dit aussi. Enfin, peut-être que c'est mon interprétation. Et puis, de toute façon, on a le droit de lire ce qu'on veut dans Proust. Hein. Mais je veux dire qu'on peut lire le monde comme un livre et le livre comme le monde. Il y a comme une continuité. Et ça, c'était très important pour moi. J'avais l'impression que c'était tout bénéfice de faire de la littérature, que j'allais à la fois être moins bête, moins bête dans le monde, tu vois. J'avais l'impression que j'allais pouvoir décoder des choses qui m'étaient... et puis aussi, j'insiste peut-être sur ça, mais je venais d'un monde qui était peut-être un peu fermé, et quand tu vas dans d'autres mondes, tu as besoin de décoder, et tu sais pas toujours très bien décoder, faut que tu apprennes plein de façons de décoder, et je trouve que Proust parle beaucoup de ça, des erreurs de décodage, de la possibilité de lire mal et de lire bien. Donc c'est vrai que Proust était un formidable moyen d'être au monde.
Cet apprentissage de la lecture, j'imagine qu'il change. Parce que tu dis, je lis Proust encore tous les jours. T'écoutes Proust, hein? Peut-être que tu pourrais nous parler de ça, comment oui. T'écoutes Proust. Puis donc, ma prochaine question, elle a peut-être quelque chose d'un peu intime, mais tu m'as dit que tu étais ouverte pour les confidences. Tout de suite avant, tu me disais, on peut être dans la confidence. Mais j'aimerais ça que tu me dises peut-être comment tu lis Proust différemment maintenant, vu que ça fait 35 ans que tu lis Proust. Qu'est-ce qui a pu changer dans ta manière de lire Proust sur 35 ans? Tu le relis sans cesse. Est-ce que tu as l'impression que tu le lis toujours de la même manière ou tu le lis radicalement différemment, pardon?
Oui, 35 ans, t'es gentil. Tu veux pas trop bien.
Oui, c'est ce que je dis.
Mais est-ce que je lis différemment? Oui, je lis différemment parce que malgré tout, ce que j'avais pas tellement vu, cette expérience du temps qui était peut-être un peu abstraite pour moi, qu'est-ce que j'en avais à faire pour qu'ils retrouvent tous les vieux à la fin ou que tout le monde a l'air de vieilles poupées finies. Je le comprenais pas trop, ça m'intéressait pas trop l'expérience temporelle de Proust à ce moment-là. Maintenant, ça me parle beaucoup. le rapport au temps chez Proust, à la vieillesse, me parle beaucoup. À la disparition, il était ce moment, c'était très important déjà quand j'avais 15 ans, la mort, mais d'une autre façon maintenant, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup plus présent dans ma vie, parce que je connais de plus en plus de morts. Et ma mort, moi, il faut toujours croire qu'on approche d'elle, hein? Je pense pas qu'on s'en éloigne. Donc je pense que j'ai l'impression que c'est pas les mêmes passages de Proust que j'aime. J'ai une passion pour le baron de Charlus que j'avais pas tout à fait à l'époque, mais il m'a été beaucoup plus indifférent. Tu sais, je découvre
d'autres personnages.
Bon, je vais vous dire, ce qui est très bizarre, c'est que je suis pas encore rendue au point où je comprends vraiment son rapport à Albertine. Ça, j'ai jamais compris j'avais une grande passionnée de Proust pour autre. Mais le rapport à Albertine, ça m'est quand même assez abstrait pour moi. C'est pas ça qui m'intéresse dans la recherche nécessairement. J'y trouve toujours mon compte, en fait.
Puis peut-être que tu pourrais nous parler aussi de comment tu l'écoutes. Hein? C'est une autre pratique de la lecture que d'écouter. Puis est-ce que tu écoutes toujours les mêmes passages? Est-ce que tu vas réécouter les mêmes passages ou tu t'écoutes d'un bout à l'autre, hein, je sais pas c'est combien d'heures, hein? C'est neuf coffrets, enfin c'est énorme.
Hier quelqu'un se moquait de moi en me disant t'es une vraie obsessionnelle, c'est vrai. Alors, mais bon, dans ce système obsessionnel, j'ai des petites folies, j'écoute Proust de façon aléatoire. C'est-à-dire que c'est celui qui passe, c'est le disque qui passe, c'est tout mis sur un iPod et j'appuie de façon aléatoire. Alors des fois c'est la voix du Solier, des fois c'est la voix de Lambert Wilson, des fois c'est la voix de Michael Lonsdale, ça dépend. Des fois il y a des soirs où je ne peux pas supporter certaines voix, donc je change de voix. C'est intéressant parce que c'est que des voix d'hommes, hein, et c'est des voix très maternelles pour moi, mais bon. Alors le travail que je fais, c'est que je les écoute. Le travail, oui, mais oui, c'est ma vie, même en m'endormant. J'écoute Proust donc le soir, et le lendemain, j'essaye de retrouver le passage. Mais le jeu, c'est d'essayer de me rappeler. Oui, c'est vrai que je suis un petit peu obsessionnelle. J'essaie de me rappeler dans quel endroit c'est, mais sans aller chercher la référence. Parce que c'est ça aussi qui est magnifique avec Proust. C'est un jeu sur la mémoire. C'est, tout le jeu, c'est d'essayer de savoir... Ça, ça me rappelle une situation de Proust. C'est où? C'est dans quelle partie? Ça, c'est, si on aime Proust, hein, je comprends qu'on puisse ne pas le lire. Enfin, je comprends. Mais, je l'accepte, je ne le respecte pas. Mais je me dis, c'est tout le jeu, c'est d'essayer de retrouver un petit peu le moment où. Le moment où j'ai essayé de me dire c'était là, parce que quand j'écoute de façon aléatoire, je ne sais jamais exactement où c'est dans la recherche. C'est ça qui est. C'est mon jeu, quoi.
Il y a quelque chose dont tu n'as pas parlé encore, tu l'as évoqué rapidement, mais c'est assez important parce que ça peut peut-être nous mener aussi un peu à ce qui t'a mené à l'écriture, mais de façon plus indirecte. Mais c'est la question de l'homosexualité, hein, qui est évidemment assez structurante dans la recherche. Puis j'aimerais savoir ce que ça t'a permis de découvrir. Hein, ça, quelle part de l'homosexualité t'a fait découvrir la recherche? Qu'est-ce que ça t'a permis de comprendre de l'homosexualité?
Ben, écoute, moi, j'aime vraiment beaucoup le début de Sodome et Gomorre. Je trouve que c'est un passage... Le début de Sodome et Gomorre, c'est complètement fou. Cette théorie que les homosexuels seraient les descendants de Sodome et Gomorre, mais c'est les plus lâches d'entre eux qui seraient restés là. Il y a toute une théorie... Bon, il y a tout un travail sur le biblique chez Proust, mais bon, j'aime beaucoup comment il réfléchit là-dessus. Ça me fait... Je trouve qu'il est à la fois qui délire, mais en même temps, il essaye d'expliquer quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'il essaye d'expliquer? Pour moi, ce que Proust essaye d'expliquer, c'est ce que Deleuze dit aussi, c'est pour ça que j'aime beaucoup. C'est les deux côtés, c'est qu'on a toujours deux côtés. Il appelle ça les hommes-femmes. Mm-hmm. Et bon, il y a... chez l'inverti, comme il le dit, bon, il faut que l'un côté aille féconder l'autre. Mais moi, ce qui m'a plu dans cette homosexualité chez Proust, telle qu'il l'a décrit, c'est le fait qu'on n'était pas dans une... Je sais que peut-être plein de gens ne vont pas être d'accord avec ce que je dis, mais je le dis quand même. On n'est pas dans une politique identitaire de l'homosexualité. On est vraiment dans un travail de l'homosexualité qui est sous-jacent à la personnalité, qui est en dessous de chacun bon, d'entre nous, et particulièrement plus chez des gens qui sont homosexuels. Mais ce que j'aimais là-dedans, c'est chez Proust, il y a... C'est affreux, là, je vais le dire, puis on va... Mais il y a quand même une honte d'être homosexuel. Il y a une honte du désir. Et ça, je trouve ça très important, parce que peut-être pas la honte d'être homosexuel, le problème, mais la honte du désir, elle est toujours là, dès qu'on a un désir qui est déviant, dès qu'on a quelque chose qui... Bon, le désir... Je trouve que notre façon de concevoir le désir, puis de se dire que le désir, il faut toujours que ça soit noble, que ça soit grand, que ça soit acceptable, me dérange particulièrement. J'ai l'impression que Proust, et puis c'est l'homosexualité, mais ça pourrait être quelque chose, c'est tous les types de... Ce qu'il appelle le vice. Le vice, qui est un mot très important chez lui, est encore là comme... Comme peut-être chez Freud, c'est-à-dire que c'est pas évident d'accepter ce qu'on désire vraiment. Mais je parle pas seulement l'autre, le même sexe que soi, là. Mais le désir, c'est quelque chose d'excessivement trouble. Et c'est ce que je trouve que Proust arrive à montrer, et que nous ne sommes pas unifiés dans nos désirs. Nous ne sommes pas juste quelque chose. Et ça, pour moi, ça vient un peu... Ce que j'aime aussi, c'est le comique chez Proust, c'est-à-dire qu'en tant qu'homosexuel, en tant que juif, il arrive à rire de ça, des certaines identités auxquelles, bon, c'est sûr, dans la recherche, il va se positionner comme s'il n'en était pas, parce qu'en être ou ne pas en être, ou ne pas être, telle est la question. Mais je pense que, pour moi, c'est important la façon dont il essaye de comprendre ce qui est sous-jacent à ce qui apparaît comme pulsion.
Tu parles un peu de l'humour, c'est lié aussi à une certaine pratique de la méchanceté, hein? Pratique qui est aussi commune à un autre écrivain dont on parlera peut-être un peu plus tard. Oui. Mais j'aimerais peut-être que tu me parles de la méchanceté, parce que c'est assez important pour toi dans ton travail d'écriture. Donc, peut-être plus dans tes premiers livres que dans tes derniers. Hein? Par ailleurs, oui. c'était plus présent peut-être dans Deuil cannibale, oui, ou dans Ça va aller. Mais... chez Proust, la question de l'humour, elle est liée aussi à une certaine méchanceté, puis donc aussi dans ce refus d'une politique identitaire ou d'une façon conforme d'entrevoir les identités.
Oui, on peut se moquer de tout, et surtout de soi. Et surtout de soi. Et c'est vrai que je trouve que la méchanceté de Proust, elle est là quand il décrit Charlus, elle est là quand il décrit un vieil homme qui court après un jeune garçon, elle est là quand il décrit le rire de Madame Verdurin. C'est épouvantable de se moquer du rire de quelqu'un, hein, parce que non, mais je veux dire, on peut pas changer ça, un rire, mais c'est drôle quand même, un rire. Ça peut être très... Donc j'aime beaucoup cette façon qu'il a de regarder le monde. Il y a jamais la volonté de rendre les choses. Oui, si elles sont glorieuses, elles le sont aussi dans la part honteuse. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot honte. Et je sais que toutes nos théories en ce moment sont contre la honte. Il ne faut pas avoir honte. On est tous fiers. On est très fiers. Mais moi, j'ai encore honte. C'est-à-dire, j'ai encore honte. Et je reviens là à Deleuze, carrément, ouais. Parce que Deleuze parle dans l'abécédaire de la honte d'exister. Honte la honte d'exister. Ouais. Hein, et je pense que c'est difficile. Je pense qu'il y a quand même... On ne peut pas juste être fiers tout le temps. Il faut quand même penser que nous sommes des êtres beaucoup plus complexes et que nous avons certaines hontes. Et puis, bon, il faut... Je ne veux pas dire qu'il faut se terrer dans un trou parce qu'on a honte, mais il faut penser à ces endroits honteux qui nous hantent.
Mais cette honte, j'ai peut-être passé à un autre écrivain, pas qu'on ait tout dit sur Proust, hein, mais c'est que ça me fait penser, la honte, c'est très important chez Thomas Bernhard, en fait. Puis Thomas Bernhard, c'est peut-être un écrivain que tu as découvert plus tard, mais qui t'a aidé à écrire. C'est très, très apparent dans Sa Vallée, la place de Thomas Bernhard, des arbres à abattre, par exemple, qui est très, très structurant. Donc, j'aimerais peut-être que tu nous parles de cette honte-là. Chez Thomas Bernhard, c'est pas tant la honte d'être gay ou de ne pas être gay, quoi qu'on le sait pas. En effet, c'est asexué, hein, chez Thomas Bernhard, c'est pas présent. Mais c'est la honte d'être autrichien. Hein. Puis cette honte d'être autrichien, tu l'as transformée en honte d'être québécois dans Sa Vallée. Ou est-ce que tu polémiques avec l'idée de la littérature québécoise, mais aussi avec la société québécoise en général? Donc, comment ça t'a amené à écrire ce rapport-là à la honte qui est chez Thomas Bernhard?
Même chez Thomas Bernhard, c'est aussi une honte existentielle. Oui, c'est-à-dire que dans Le Naufragé, il y a trois personnes. Il y en a un qui a réussi, les deux autres qui n'ont pas réussi. Oui. Hein, puis celui qui est peut-être le plus honteux, c'est celui qui a réussi. Tu vois ce que je veux dire? Il y a ça aussi. Mais c'est vrai que chez lui, la honte d'être autrichien, la honte d'appartenir à ce monde, qu'il adore par ailleurs. Parce que si on lit Les arbres à abattre jusqu'au bout, il dit vraiment je hais Vienne, mais c'est là d'où je suis et je veux y retourner. Il n'y a pas d'autre endroit que Vienne. Hein. Donc, il y a quand même, c'est très important pour lui, l'ambivalence. Et c'est là aussi que je trouve que j'aime bien, c'est comme chez Proust, il y a cette capacité d'ambivalence, de j'aime, j'aime pas, et puis les choses... La littérature permet ça, pour moi, on n'a pas besoin de cocher oui ou cocher non. On peut mettre les deux. Mais ce que j'ai aimé, en fait, j'ai connu Thomas Bernhard vraiment par Hervé Guibert, je ne l'ai pas connu avant, mais ça fait quand même déjà... peut-être 24 ans, j'ai connu parce que Hervé Guibert racontait qu'il était pris par la métastase bernardienne. Donc j'ai commencé à lire Thomas Bernhard, comme j'ai lu Robert Walser par Hervé Guibert, j'aime beaucoup aimer les écrivains. Donc, et ce qu'ils lisent, je lis ce qu'ils lisent pour essayer de comprendre leur univers. Je suis beaucoup dans ce rapport-là. Je me suis mis à Lise Ruskin pour lire Proust. Donc j'ai commencé à lire Thomas Bernhard, puis c'est vrai que j'ai été très éblouie par ce qu'il écrivait. C'était cette capacité d'être vraiment méchant, et puis ce souffle dans la méchanceté, c'est-à-dire c'était pas une méchanceté qui était justement honteuse tout de suite, elle était honteuse de prendre toute cette place-là, hein. C'était pas une méchanceté rentrée, et j'ai beaucoup aimé ça, et particulièrement plein de livres, mais Des arbres à abattre, parce que c'est le livre sur la société viennoise, et il a été poursuivi, pour ça il a dû changer les noms des personnages. Alors aussi, c'est ça que j'aime bien chez Proust, comme chez Thomas Bernhard, comme chez Hervé Guibert, c'est le rapport à la réalité. C'est-à-dire que Proust se servait quand même, il y a des modèles, hein, en ce moment c'est le centenaire de la recherche, là, c'était en novembre 2013, si vous allez lire les magazines littéraires ou des trucs comme ça, vous avez que voici le le modèle de Charles Swann. Voici le modèle de... Vous avez les modèles comme ça. Mais bon, je crois que Proust était quand même inspiré vraiment de gens qu'il était en train de travailler sur... Il y avait une critique de la société chez Thomas Bernhard, c'est évident. Chez Guibert aussi, on a beaucoup lu ça. On a lu son œuvre. Il y a toute une grande critique d'Isabelle Adjani. On l'a lu comme ça. Bon, mais c'est des gens qui connaissaient. Il parle de Michel Foucault, de la mort de Michel Foucault en l'appelant Musil. Moi, j'aime bien la littérature qui a parfois... le roman, disons, qui a un rapport à la réalité. Je déteste pas ça. Je suis encore en train de penser que la littérature peut nous apprendre à vivre et à mourir, et aussi à aimer et détester. Donc,
Oui, ben ça, c'est ton amour de la biographie, en fait.
Oui, c'est vrai.
Oui, donc, c'est que tu crois que la littérature, ça peut quand même... ça peut être encore un modèle de vie, c'est-à-dire un modèle négatif à certains égards, mais comment vivre sa vie?
Oui, tout à fait. Et en même temps, je suis contre Sainte-Beuve, comme Proust, c'est-à-dire que je pense qu'il y a un grand écart entre l'écrivain et son œuvre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immédiateté entre les deux. Mais ce qui m'intéresse, c'est cet écart-là. C'est-à-dire, j'aime aller voir... J'aime vraiment connaître les écrivains. Je suis très groupie d'écrivains, mais je ne leur montre pas parce que je suis quand même... Mais j'aime voir la différence entre l'œuvre et la personne. Ça me fait toujours beaucoup rigoler. Parce que, bon, il y a quelque chose d'incommensurable. Et c'est là où je trouve qu'il y a toujours quelque chose à comprendre. Alors, je ne foutrais pas les auteurs complètement à la poubelle. C'est vrai que j'ai une passion pour la biographie. Et j'aime bien lire les deux. C'est-à-dire, j'aime bien lire Thomas Bernhard en me disant c'est un grand texte, ou Joyce, c'est un grand texte, mais en même temps, en me disant... ou Duras. Moi, j'aime beaucoup... Bon, ce qui est peut-être de génial dans Duras aussi, c'est comment elle a réussi à mettre sa vie tout en la transformant, en la déguisant. Et puis...
Oui, tu m'avais déjà parlé de ta fascination pour l'entretien avec Bernard Pivot, où elle parle de l'amant, mais finalement, on a découvert que l'amant, il n'a jamais existé. Mais avec Bernard Pivot, elle lui dit, ah oui, c'est ça, il était avec moi dans la voiture comme vous, là.
Il prenait ses places, là, d'un seul coup, il se voyait, l'amant. Elle arrivait à lui faire ça, vous pouvez, bon, c'est vrai que Marguerite Duras, bon, alors Marguerite Duras, elle essayait vraiment de, je trouve qu'elle jouait sa personne d'auteur jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'elle se mettait à parler comme dans ses livres, mais il y en a d'autres qui vont le faire autrement, c'est-à-dire il y a des gens qui n'ont rien à voir, mais elle, je trouve qu'elle le jouait assez bien, en fait, surtout à la fin de sa vie, elle a une parole un petit peu oraculaire, de pitié, et puis elle joue Duras, et puis bon, qui pouvait jouer mieux Duras qu'elle? Peut-être.
Il y a plein de gens qui essaient, mais... Mais t'es passé vite un peu quand même sur Hervé Guibert, parce que Hervé Guibert, tu l'as beaucoup lu, tu l'as beaucoup enseigné, puis quand on lit Deuil cannibal, c'est évident que Hervé Guibert t'a fait écrire jusqu'à un certain point. Hein. Deuil cannibal, c'est ton premier livre, puis tu l'écris quand même assez tardivement, c'est-à-dire que tu l'écris pas non plus à 25 ans, mais on sent vraiment cette impulsion, comment Hervé Guibert te fait écrire, et puis comment t'écris en quelque sorte pour poursuivre l'œuvre d'Hervé Guibert jusqu'à un certain point. Peut-être que j'aimerais que tu nous parles, parce qu'on a parlé de comment tu t'étais définie comme lectrice par Proust, mais comment tu t'es définie comme écrivaine par Guibert.
Oui, t'as tout à fait raison. En ce moment, je donne dans un séminaire, je donne la préparation du roman de Barthes. Ouais. Et puis, toute l'idée, on comprend que Barthes, toute sa vie, il a voulu écrire un roman qu'il n'a pas écrit, et puis il meurt juste après ce dernier séminaire, la préparation du roman, et il n'a pas réussi à écrire ce roman proustien, parce que son modèle, c'était Proust. Donc, c'est vrai que le modèle peut venir bloquer. Et l'autre jour, j'ai eu cette discussion avec mes étudiants, parce qu'ils me disent, mais Isa, pourquoi il voulait... je ne comprends pas... Enfin, les étudiants avaient l'air de ne pas comprendre la souffrance de Barthes, que Barthes, parce qu'ils me disent, Barthes est tellement connu, il est tellement bon, pourquoi il voulait faire du Proust? Je dis, mais... C'est toute sa douleur, c'est-à-dire qu'il n'est que Barthes, il n'est pas Proust. Peut-être Barthes, c'est mieux que Proust, mais pour lui, il n'est que Barthes. Il y a quand même une douleur là-dedans, c'est peut-être ça qui l'a fait écrire. Hein. Mais bon, c'est vrai que Proust, moi, ça n'a jamais été... mais je ne suis pas Barthes non plus, donc je n'avais pas un aussi grand modèle que Proust. Mais c'est vrai que Proust n'a jamais été pour moi... quelqu'un qui pouvait m'accompagner dans l'écriture. C'était vraiment un lecteur, quelqu'un qui me donnait à lire le monde, mais jamais j'ai pensé que je pourrais faire du Proust. C'est pas parce que je suis pas mégalomane, là, mais c'est parce que je le suis sûrement, dès qu'on écrit, on est un petit peu mégalo, mais je pense que c'était pas ça mon modèle d'écriture, c'était pas Proust. Et je m'étais dit d'ailleurs que j'écrirais pas, que c'était pas... Puis, à un moment donné, je lis Hervé Guibert, puis je me dis, ah, tiens, ça serait possible. Ça, c'est quelque chose qui est possible pour moi. Et en ayant beaucoup d'admiration pour Guibert, c'est pas juste parce que je suis en train de mépriser Guibert, hein, vous m'entendez pas comme ça. Et je me dis, ça, c'est possible, ça, c'est une écriture contemporaine qui est possible pour moi. J'admire beaucoup d'écrivains contemporains, mais ils viennent pas me parler de moi de cette façon-là. Mais ils me parlent de moi peut-être plus encore, mais pas de cette façon, pas de moi comme celle qui pourrait écrire un jour. Et c'est vrai que Guibert m'a donné ça parce qu'il me donnait une liberté dans l'écriture. Il me donnait aussi... ce que j'aimais aussi dans Guibert, c'est... si j'avais... Comment dire? Il y a un deuil chez moi quand même, c'est le deuil d'être poète. On a peut-être tous un deuil d'être poète quand on est écrivain, parce que peut-être que l'écrivain suprême pour tout le monde, c'est le poète ou la poète. Mais je savais que je n'ai pas cette parole-là. Je ne suis pas quelqu'un de la... J'aime les histoires, mais pour me les raconter, je peux adorer la poésie, mais je me suis dit, ah, mais Guibert, c'est pas un poète, mais il arrive à raconter des histoires, il arrive à parler de douleur aussi. Ce que j'aime dans la poésie aussi, souvent, c'est la douleur, mais il arrive à parler de douleur en faisant quelque chose de narratif, en restant dans la douleur. Il est fidèle, je crois, à cette douleur-là. Il parle aussi beaucoup de honte, il parle de choses très honteuses, il raconte comment il a attrapé, il pense avoir attrapé le sida, il raconte des choses assez laides qu'il a faites. Il est capable de mettre en scène une certaine horreur de soi, une certaine honte de soi. Et je me suis dit, Guibert, c'est un peu le grand frère. Il est né en 55, moi je suis née en 61. J'avais l'impression que ça pouvait être le grand frère d'écriture qui me montrerait la voie.
Puis il y avait un effet générationnel aussi, ce qu'il racontait, c'est ce que tu avais envie de raconter aussi à ta manière.
Voilà, on vivait les mêmes choses. Tu vois, Duras, pour moi, ça restait un peu inaccessible au niveau générationnel. Ouais. Bon, je me sens pas très près de... J'aime beaucoup ce qu'elle écrit, mais l'amant, je veux dire, j'adore l'amant. J'adore l'amant, allons-y. Bernard Pivot, donc. Je me reconnais pas dans l'amant de façon pour écrire, mais même si j'ai ça, il y a sûrement un côté midinette de moi qui va bien dans l'amant, mais c'est pas ça du tout la question pour moi. C'est pas une écriture à laquelle je suis, alors que Guibert, ça parlait exactement de ce que je vivais d'une autre façon, parce que j'étais pas du côté de celle qui avait le sida, mais j'étais celle de qui voyait ses amis mourir du sida. Voilà, j'ai eu l'impression que il y avait c'était comme une chambre d'écho, une chambre de résonance, et que je pouvais écrire à côté de Guibert, alors qu'il me tenait la main, même s'il était mort. Oui, j'avais l'impression que là, il y avait une possibilité pour moi. Parce que c'est vrai que j'ai voulu écrire jeune, mais après ça, je me suis dit... Bon, si je passe ma vie à lire, ça sera aussi bien, tu sais, ça fera des livres de moins mauvais sur Terre. Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'on devrait moins écrire, en fait. Je suis pas un bon exemple, mais je me suis dit pourquoi pas être lectrice simplement. Et puis avec Guibert, avec ce qui m'est arrivé, j'ai eu l'impression qu'il y avait une nécessité d'écrire. Mais tant que j'ai pas senti cette nécessité, je me disais, bon, il y a tellement de bons livres, ça, je suis bien dans la littérature, je peux y nager sans... comme ça.
Puis, peut-être j'aimerais qu'on parle juste d'une dernière chose. C'est Fleurs de Crachat, qui est quand même un livre qui est un peu atypique dans ton parcours. C'est souvent le livre dont on parle le moins. Il arrive entre Ça va aller, puis Le ciel de Bécité, dont on a énormément parlé. Et puis, on parle assez peu souvent de Fleurs de Crachat, qui est un livre assez particulier, qui est un livre particulier aussi d'un point de vue stylistique. Et puis, j'ai l'impression que, jusqu'à un certain point, tu as peut-être voulu faire un livre à la quelque chose. Hein. Donc, je ne sais pas exactement si c'est à la Céline ou si c'est à la Genet, hein, peut-être le Genet de Notre-Dame-des-Fleurs ou quelque chose comme ça. J'aimerais peut-être que tu nous parles des influences de Fleurs de Crachat, parce que c'est un livre, pour moi, que j'arrive moins bien à comprendre dans ton parcours, qui est un excellent livre et puis qui, comment dire, qui... C'est comme si tu avais voulu faire pas un pastiche, mais tu avais voulu essayer quelque chose, en tout cas d'un point de vue stylistique, parce qu'après ça, le ciel d'obésité, l'écriture ressemble plus du tout en fait.
Mais en fait, le ciel... si on veut parler d'écriture, puis là, ça devient un peu prétentieux, parce qu'il faut que je...
Mais c'est moi qui te lance là-dessus, mais
le ciel d'obésité, c'est pas naturel du tout pour moi d'écrire comme ça. C'est-à-dire que ce qui est plus naturel, plus vite, c'est vraiment Fleurs de Crachat. C'est-à-dire une écriture peut-être qui est très proche des d'auteurs que j'ai lus comme Céline, comme Genet aussi, une écriture qui décolle de la réalité mais qui est en même temps très, je peux dire, assez méchante et peut-être parfois dans l'invective. Oui. Mais ça m'est beaucoup plus facile d'écrire comme ça. Je ne suis pas quelqu'un d'excessivement narratif. Bon, à un moment donné, j'aime les histoires, mais j'ai du mal à écrire des histoires. C'est vraiment un travail, un vrai travail pour moi. Alors, pourquoi j'ai décidé d'écrire Le ciel de Bestis? Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je recompose quelque chose à partir d'éléments qui avaient été... par des morceaux de vie qui ne prenaient pas sens. Il fallait que je recompose quelque chose de narratif, un peu faux, mais que ça permettait de donner du sens à des morceaux de vie qui ne faisaient pas sens. Mais je peux dire que Fleurs de Crachat, c'est drôle que tu en parles, mais c'est vrai que c'est une écriture, même ça va aller, c'est une écriture qui est plus proche de mon tempérament, si ça existe. Mais tu sais, c'est peut-être ça que j'aime tellement chez les auteurs et que j'ai pas, c'est que j'ai pas une voix, tu sais, c'est-à-dire que je peux avoir plein de voix, peut-être parce que c'est la déformation d'avoir fait des lettres et on fait des bons pastiches, hein, mais j'ai pas l'impression d'avoir une voix, j'ai l'impression d'avoir plusieurs voix qui peuvent changer, que j'essaye des choses, mais je ne sais pas si j'ai, peut-être c'est ça que j'ai envie, mon envie du pénis freudien de littéraire, ça serait la voix, et peut-être c'est pour ça que j'aime la poésie, parce qu'en poésie aussi, il y a souvent une voix présente. Et moi, il me semble que j'ai des voix, peut-être certaines plus ténues que d'autres. Mais si je voulais travailler ma voix, hein, si j'avais envie de travailler ma voix, ça serait celle que l'on voit dans Ça va aller ou Fleurs de Crachat. Mais est-ce que j'ai vraiment envie de travailler ma voix? Je ne sais pas. Parce que cette voix-là me... Comment dire? Elle n'est pas... Il faut assumer une certaine méchanceté et une grande violence. Et je ne sais pas si c'est cette violence-là que je veux développer dans l'écriture.
Ouais. En tout cas, tu l'as mis de côté pour faire Le ciel d'obésité. Et puis, oui. Smokey Nelson, tu as essayé autre chose, en fait.
C'est ça. Et j'essaie des choses comme ça, peut-être que... Mais je ne veux pas dire que c'est ça, mais je dis c'est plus que ça. Ça va beaucoup plus vite d'écrire ces livres-là. Ce n'est pas parce que je ne travaille pas, mais c'est comme si j'étais dedans très vite, alors que les autres, c'est vraiment un travail contre nature, mais j'aime pas la nature, donc ça va bien.
Est-ce qu'on en fait la déclaration de ça? J'aime pas la nature, alors.
Mais c'est vrai que, je veux juste terminer, ouais, parce que je suis passée à travers bon nombre d'auteurs très masculins, disons. J'ai quand même eu des époques où j'étais... très lié à des textes de femmes, je le suis encore d'ailleurs, mais on parlait du Duras, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est vrai que je ne sais pas pourquoi, quand tu m'as demandé, en ce moment, je suis beaucoup dans Proust, parce que j'ai l'impression que c'est pour moi une espèce de permanence, à chaque fois je peux y retourner et que il y a quelque chose de stable dans l'écriture proustienne. Mais j'ai d'autres écrivains comme ça. J'aime beaucoup Robert Musil, et ça c'est aussi ça. Mais c'est des longs textes comme ça qui d'un seul coup j'ai l'impression qu'ils me donnent une espèce de Peut-être c'est l'effet Scheherazade, hein, c'est-à-dire j'ai besoin de tous les jours de lire un petit peu de quelque chose pour même si j'ai d'autres livres à lire, j'ai besoin qu'il y ait un conte chaque jour qui me soit raconté. Il y a quelque chose de très enfantin là dedans. Mais quand j'étais enfant, c'est vrai que je lisais l'essentiel de mes lectures, c'était des contes. Je sais pas si c'est, je lisais tout le temps des contes. Et je pense que c'est encore le rapport que je peux avoir.
À Proust.
À Proust.
À Proust. La permanence de Proust.
Oui.
Oui. Briser la glace. Vous avez dit que vous avez commencé à écrire tardivement, mais se mettre à écrire après avoir été une lectrice vorace, c'est aussi se placer sur un autre pôle qui est celui de la création, puis d'être confronté à ses contemporains. Et est-ce que ça a changé votre rapport à la lecture du fait de... Il y a beaucoup d'écrivains qui disent, ben, à partir du moment où on publie dans un corpus, peu importe lequel, peu importe l'appartenance qu'on se détermine par rapport à lui, mais il faut les connaître, nos contemporains. Puis quand on n'est que lecteur ou lectrice, on peut vraiment choisir ses lectures. Est-ce que ça a changé votre rapport, les auteurs que vous avez lus, le fait de vous mettre à écrire, de publier?
J'ai toujours lu beaucoup les contemporains, en fait. Je n'ai pas voulu en parler aujourd'hui, mais j'ai toujours été... Je lis beaucoup les contemporains. J'essaie toujours de savoir ce qui se fait. Et puis, j'aime ce qui s'écrit. Souvent, bon, je peux prendre une pause dans mes livres que je trouve tout mauvais, mais c'est de la littérature. Donc, mais j'aime... Non, j'aime vraiment ce qui s'écrit. Je ne pense pas avoir changé de position par rapport à ce qui s'écrivait ou... bon, parce que cette position, peut-être parce que je suis prise dans ça, mais je suis prise dans le rapport de professeur. Donc, c'est resté stable dans ma vie. Donc, j'ai continué à regarder les textes comme ça. Par contre, ce que j'ai beaucoup... Ce vers quoi je suis allée, j'aime beaucoup entendre les écrivains parler, ce qui m'intéressait peut-être moi, à part quand c'était Proust ou bon. Mais c'est vrai que j'aime bien quand les gens parlent du travail de création. Ça m'intéresse. C'est de voir comment les choses se font, comment ils bricolent, comment ils sont pas satisfaits. Ça me plaît, la réflexion sur le travail de création. Et, mais je le disais tout à l'heure, j'aime aimer et détester les écrivains. C'est-à-dire, j'aime dire j'aime pas, comme Barthes le fait. J'aime un tel, un tel, un tel, un tel. J'aime pas un tel, un tel, un tel, un tel. J'ai besoin de choses justement encore très claires. Et c'est pour ça que je les lis pour les classer dans mon truc j'aime pas. Donc je les lis beaucoup. Puis c'est pas pour. Puis quand j'aime pas, c'est pas grave, parce que je veux dire, c'est pas. Il peut y avoir de quelque chose d'intéressant toujours dans j'aime pas. Je donne beaucoup de textes à mes étudiants à lire que j'aime pas, hein. Mais ça, je trouve ça intéressant aussi de mais je leur dis pas que j'aime pas, mais voyez ce que je veux dire. J'aime bien montrer quelque chose, parce qu'il y a des choses à dire. Mais oui, je pense que je sais pas si mais quand même, écrire pour moi maintenant, c'est quand même être de plus en plus anachronique. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui reste dans le contemporain, qui travaille dans le contemporain, qui est à l'affût de ce qui se fait, puis ça m'intéresse. Mais j'ai l'impression que il faut, pour moi, quitter un petit peu le moment présent, que j'ai besoin de... Je vais pas aller dans le bois, vous inquiétez pas. Mais j'ai l'impression que le rapport il faut que je lise les gens, mais que je le dis souvent, je suis poreuse, et des fois je peux être tellement dans la fascination de l'œuvre de quelqu'un d'autre que je vais y rester pendant 3 mois sans écrire un mot, et des fois je m'empêche un peu de lire pour pouvoir écrire. Mais c'est pas parce que, c'est simplement parce que je suis fascinée. J'aime être fascinée. Alors il faut que j'apprenne la fascination, mais à plus petite dose, si je veux continuer à écrire. Puis peut-être que je vais tellement être emportée par un texte que j'écrirai plus, ce qui serait peut-être bien pour tout le monde.
si je peux me permettre, avant de passer le micro, est-ce que cette fascination-là pour les écrivains qu'on aime fait en sorte que les œuvres complètes toujours qu'on va lire de ces auteurs-là.
C'est vrai.
Est-ce qu'il faut comme traverser
l'œuvre? C'est vrai, vous avez raison. Moi, j'aime les œuvres complètes. C'est vrai, j'achète jamais un livre de quelqu'un. J'achète tout le livre. C'est la série, là. C'est le lecteur sériel. Oui, c'est vrai. Moi, je lis... Oui, vous avez raison. Il faut que je lise tout. Parce que, oui, il y a une de mes étudiantes qui me disait l'autre jour, « Ah, mais Guibert, moi, j'aime pas tel livre. J'aime... » Je dis, « Non, moi, je l'aime. » Au complet. Son œuvre, je la comprends que dans cette totalité-là. C'est-à-dire à l'ami qui m'a pas sauvé la vie, mais les gangsters. Mais pour moi, aimer quelqu'un, c'est de comprendre ce qu'il a fait avant, après. C'est ça. Vous avez tout à fait raison. C'est une passion de l'œuvre complète. Ça, c'est sûr. Ça fait partie aussi de l'obsession, hein, des obsessions.
Dans vos plus récents romans, vous campez vos personnages et vos histoires aux États-Unis. Mm-hmm. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Alors que vous parlez beaucoup de références littéraires européennes ou mm-hmm. autres.
Pourquoi? Ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, j'avais l'impression... c'est pas original ce que je vais dire, je pense que... Mais j'avais l'impression que je pouvais plus parler du Québec. Il y avait quelque chose qui s'était que le prochain mot que je disais contre le Québec, ça serait vraiment pas bien. Et donc, il fallait que j'arrête de parler du Québec, d'accord? Et je me suis... la France, pour moi, c'est... Comment dire? Je pense pas... je pense être pas de ce territoire-là. Je pense que j'aime beaucoup les auteurs européens, tout ça, mais je pense que je suis du Québec et de l'Amérique du Nord. Alors, j'ai décidé d'écrire un peu vers quelque chose d'américain parce que je connaissais bien, parce que quand j'étais enfant, ma mère a deux sœurs qui vivent aux États-Unis, c'est vraiment biographique. Mais... j'espère pouvoir écrire sur le Québec, c'est-à-dire j'espère pouvoir revenir, mais je pense pas que je pourrais, honnêtement, je pense pas. Pour moi, la France, je vais vous dire, mon rapport à la France est tel que j'ai l'impression, mais c'est pas vrai, on peut écrire en Europe, mais mon rapport à moi, c'est que l'Europe est saturée d'histoire. L'Europe est vraiment saturée d'histoire et... Une de plus, là, vraiment, ça serait pas possible. Parce que j'ai toujours la conscience qu'il faut pas peut-être mettre une chose de plus au monde qui n'en vaudrait pas la peine. Et non, je pourrais pas vraiment parler de ça. J'ai l'impression quand même ici d'avoir de l'espace et que ma parole est ici. Alors, peut-être que je la travestis un peu en allant vers les États-Unis, mais j'avais l'impression dans le ciel de Bay City et même dans Smokey Nelson, je voulais pas parler du Canada parce que là, c'est vrai que j'ai fui des problèmes. J'ai fui des problèmes que j'aurais pu rencontrer, mais je tenais à ce que les choses soient un peu travesties. Mais peut-être que je vais revenir au Québec. En fait, j'ai mon prochain texte, pas le prochain, mais l'autre d'après, c'est sur le Québec.
Première partie, on vous a demandé de parler des auteurs qui vous ont influencé, on va dire de manière positive. Est-ce que vous pouvez écrire contre certains auteurs ou contre certaines paroles?
Oui. oui, tout à fait. J'écris souvent contre. J'écris très souvent contre des auteurs, certaines paroles. Dans ce que je vous disais tout à l'heure, j'aime bien admirer, j'aime bien détester aussi. Donc, j'ai des contre-écrivains. J'ai des écrivains que je n'aime pas, qui me font écrire, qui me poussent. Mais je ne vais pas les dire là. Je vais pas donner nom et nom, comme on dit. Mais je vais... Oui, il y a beaucoup d'écrivains que je n'aime pas. Et des écrivains, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont mauvais. Au contraire, hein, il y a des très bons écrivains que j'aime pas du tout, du tout.
Merci beaucoup, Catherine.
Merci. Merci à Julien aussi, hein.